Cube Radio.
Le précédent podcast, Marc-André, je l'ai enregistré dans ma cuisine et les gars de son de Cube Radio n'ont pas trouvé que c'était génial. Pourtant, c'était un moyen du bord tout à fait respectable en ce qui me concerne. Alors, cette fois, je l'enregistre dans un milieu beaucoup plus isolé et beaucoup plus rembourré par du velours, c'est-à-dire dans ma Mercury Grand Marquis 83.
J'aimerais ne pas commenter là-dessus parce que, en tous les cas, je crois que ça te définit bien autant l'écho que d'être dans de vieilles choses. Donc, je pense que c'est un mal pour un mal.
Marc-André, à part ouvrir tous les coffres à gants des voitures au salon de l'auto, faisais-tu quelque chose de particulier?
Pas vraiment, pourquoi?
Tu ramassais pas des brochures à chaque kiosque de manufacturier automobile?
Non, parce que moi, je suis un homme de la Renaissance. Je ramasse les clés USB.
Oui, mais je parle quand on était petit garçon, là, quand les clés USB étaient encore un élément futuriste.
Là, Germain, si je te comprends bien, t'essaies-tu de me lancer sur les brochures automobiles?
Ben, t'as tout compris. Fait qu'on part?
On part.
Premièrement, comment on appelle ça en français une brochure, Marc-André?
Je suis pas un expert linguiste de la Grande Académie française de la langue française, là, mais je pense que brochure, c'est un mot français, non?
Oui, mais c'est pas parce qu'il y a différents types de brochures. Il y a autant des catalogues, il y a autant des dépliants que des feuillets cartonnés aussi. Bref, la brochure, au sens très large, prend plusieurs formes.
Moi, j'appelle ça des pamphlets, puis on m'a appris quand je travaillais au gouvernement.
Tu vois, ça, c'est un autre mot qu'on n'a pas le droit d'utiliser, pamphlet.
Non, parce qu'un pamphlet, supposément que c'est politique, là. Je sais pas si mon ancienne directrice avait raison de le dire, là. Mais c'est un mot qu'il faut pas dire, pamphlet, ça a l'air.
Voilà. Donc, peut-être que les plus jeunes qui nous écoutent ont pas connu les belles années de la brochure, mais toujours est-il que dans les concessionnaires et dans les salons de l'auto, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, chaque manufacturier, ou presque, distribuait des brochures aux consommateurs. Donc, il y avait des brochures souvent de la gamme complète et des brochures individuelles pour chacun des modèles, et ça, à chaque année. Et il y avait des brochures, évidemment, pour le Canada en français, des brochures en anglais pour le Canada, des brochures américaines. Bref, on a généré des tonnes et des tonnes de papier de cette manière-là parce que, comme on le disait, ça peut prendre plusieurs formes. Oui, ça peut être une simple feuille, mais ça peut aussi être carrément un livre là, jusqu'à un certain point. Des brochures là, de quelques dizaines de pages, de format assez grand. Bon, on en voit moins souvent qu'avant, mais toujours est-il que ça a déjà été beaucoup plus fréquent qu'en ce moment. Vous l'aurez deviné, là, je dis vous, mais ça t'inclut toi aussi, Marc-André. Tu l'auras deviné et tu l'as constaté toi-même. C'est de plus en plus délaissé par les manufacturiers. Premièrement, parce qu'il y a des coûts associés à ça qu'on juge fort probablement inutiles, et parce que c'est bien plus facile de déposer l'information en ligne et de la modifier au besoin là en cas d'erreur ou en cas d'évolution d'un produit. Parce que si on est, par exemple, là, au mois d'octobre ou novembre 2020 et on imprime les brochures pour l'année 2021, bien, s'il arrive en cours de route un changement au sein de la gamme, un changement dans la proposition de modèle, ben on est cuit parce qu'on en a imprimé, je sais pas, quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'exemplaires. Donc, tout ça devient périmé assez rapidement.
C'est drôle parce que les brochures se remontent vraiment loin dans le temps, là. Je me rappelle, parce que, comme tu sais, dans ma famille, il y a des gens qui ont eu des voitures très anciennes. Puis ces gens-là avaient même les pamphlets de ces voitures-là, les brochures, excuse-moi. Puis c'est drôle parce que la brochure, à l'époque, servait vraiment à l'homme de la maison parce que souvent, c'était lui qui faisait les décisions économiques à l'époque.
Même absolument.
Que, j'ai déjà eu une brochure d'Opmobile 1932 dans les mains, puis ça commençait en disant « Monsieur, ce soir, vous avez une décision importante à prendre, mais assurez-vous que la voiture, la couleur plaise à madame. » Tu sais, tu vois un peu le
voilà.
Le truc qui va servir à magasiner à l'extérieur.
On ciblait très, très bien l'homme et la femme dans le couple, mais effectivement, la brochure servait d'aide-mémoire, si on veut, aux consommateurs en y présentant, bon, les nouveautés de l'année, les couleurs offertes, les différents modèles, parce que les différents trims, en bon français, les différentes versions, les différents modèles d'enjoliveur, les différentes finitions intérieures. Bref, il y avait moyen d'y mettre une tonne d'informations. À une certaine époque aussi, c'était des dessins, hein, qu'on retrouvait, un peu comme c'était le cas pour des publicités. Puis au fil du temps, ben, ces dessins-là, on laissait place à des photos, à des images carrément. C'est drôle que tu dises que dans ta famille, les gens possédaient la brochure de la voiture qui se trouvait dans leur garage, parce que c'est comme ça un peu que la collection a commencé dans mon cas, parce que bah tu sais, j'ai quelques vieilles voitures. Donc, pour le plaisir, j'aimais bien avoir la documentation associée à cette voiture-là. Par exemple, pour mon Newport 72, ben j'ai acheté la brochure canadienne en français, la brochure américaine, tout ce qui se pouvait, toute documentation qui pouvait être en lien avec cette voiture-là. Puis là, j'ai acheté une autre voiture et ainsi de suite, blablabla. Et là, je suis tombé un jour sur des brochures de modèles que j'aimerais posséder. Donc, on a élargi tranquillement le cartable de brochures et je me suis mis à rapailler en bon français les brochures que j'avais ramassées comme gamin dans les salons de l'auto. Bref, ça ne finit plus. Et j'en suis à l'étape maintenant où je vais acheter une brochure simplement parce que je ne l'ai pas. Tu comprends?
Ben, tu vois, les brochures, je les trouve pratiques pour ça, parce que tu le dis, là, t'as celle de tes modèles, mais ce qui est hot, c'est que tu peux regarder, par exemple, ben là, moi, j'ai telle version, mais cette année-là, j'aurais pu avoir ça. Fait que je sais pas si c'est ton genre, mais tu sais, admettons, un jour, tu veux faire des petites améliorations sur tes voitures, tu peux toujours aller chercher les pare-chocs qui te manquent, les voies de l'écoute, je sais pas, les capes de roues qui te manquent, etc.
Exactement, là. D'avoir un autre type de roue, un autre type de cap de roue, mais toujours en respectant l'originalité de l'époque, donc mais c'est aussi une excellente source d'information, parce que bon, oui, aujourd'hui là, les manufacturiers vont déposer là l'équivalent de ces catalogues là en ligne, mais qu'est-ce qui va arriver pour la pérennité de cette information là
Maintenant, la plupart des voitures ont encore des brochures, mais en PDF en ligne là.
Est-ce qu'on va collectionner des PDF sur notre ordinateur? Tout ça est un peu
Ben écoute, si t'étais vraiment motivé, Germain, tu pourrais les imprimer, hein, en couleur reliée.
Ah oui, mais on perdrait toute l'essence même du PDF.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Toi, t'es comme moi, Germain, tu sais, on est souvent amené à devoir écrire sur des véhicules, puis on cherche les maudits specs, puis les spécifications pour les intimes, là, la puissance des moteurs, la
capacité de remorquage. Les caractéristiques intrinsèques.
Hein, ouais, c'est ça. En tout cas, puis je trouve que c'est donc dur, des fois, avoir l'information sur les sites web. Je te dirais que 80% du temps, je me tanne, je fais juste télécharger la brochure, puis c'est tellement mieux fait. Souvent, ils ont des tableaux comparatifs. C'est là qu'on voit que la brochure est encore pensée comme un document qui vit de lui-même, qui est bâti d'une manière logique, rationnelle. Tandis que le site web, tous les constructeurs ne sont pas égaux à ce niveau-là, mais des fois, c'est un peu n'importe quoi.
Puis, aux 3 ou 4 ans, on va renouveler ce site web-là, puis les archives, ben, elles seront pas nécessairement disponibles au public, alors que la brochure physique, papier imprimé, que tu as à la maison, évidemment... Oui, c'est ça. Tout dépendant de la qualité du papier aussi, ça vieillit pas toujours bien du papier imprimé, mais il y a moyen de conserver ça efficacement. Je tiens quand même à mentionner que General Motors accorde une attention particulière aux brochures et surtout aux brochures anciennes. Parce que si on visite le site Héritage de GM, eh bien, on a accès à des versions numérisées. Je vais pas dire de tous les modèles, parce que bon, j'imagine qu'ils sont pas tous là, mais d'une très grande panoplie, une très grande quantité de brochures d'époque, allant des années 20 jusqu'à aujourd'hui. Franchement, c'est une excellente source d'information et j'ai pas vu ça pour les autres manufacturiers là, notamment américains, mais je pense que pour des manufacturiers qui ont un historique aussi riche que GM, ben ça pourrait être un atout là pour les passionnés comme nous.
Non, tu touches à quelque chose, mais tout le monde devrait faire ça. Je vais te donner un exemple. Des compagnies européennes comme Mercedes, BMW, Audi qui vendent des voitures ici, leurs modèles plus anciens, on les connaît moins bien ici. Tu sais, on parle des voitures des années 50, 60. Pour les amateurs, ça serait vraiment amusant de pouvoir aller lire ça. Probablement que ça existe quelque part, mais ça devrait être mieux fait, plus accessible. Parce que la brochure, encore une fois, je sais que je reviens souvent là-dessus, mais pour moi, c'est un document qui vit de lui-même. C'est un produit de communication à part entière qui est pas conçu pour s'intégrer dans un site web. C'est justement ça qui fait que c'est le fun à lire. Je trouve que ça renseigne bien sur le véhicule. Un parallèle que je fais souvent, c'est les jeux vidéo. À l'époque, quand on achetait des jeux, là, ça nous coûtait qu'un beau petit livre qui expliquait le jeu, mais qui racontait l'histoire, qui racontait c'est quoi les méchants, puis on l'a plus, ça.
Oui, puis ben on peut faire exactement la même chose avec la musique, par exemple.
C'est vrai.
T'achetais un CD, ben t'avais le boîtier en plastique que tu plaçais là dans ton armoire. Dans le boîtier, t'avais le CD lui-même, mais t'avais aussi la pochette avec une petite histoire de l'artiste. T'avais les paroles des chansons. Bref, en achetant la musique, tu avais tout un ensemble qui venait avec, mais malheureusement, quand tu es abonné là, à une chaîne de diffusion en direct ou en streaming de musique, ben, tout ça n'est pas aussi accessible.
Ben, c'est une question d'accessibilité. C'est surtout que le produit, en tant que qu'expérience, là, autant qu'on veut nous vendre ça aujourd'hui, que l'on regarde des marques comme Apple et tout ça, c'est bien. Mais on nous en donne de moins en moins. Maintenant, l'expérience est dans les nuages numériques. Mais tu sais, quand tu achetais n'importe quel produit de qualité, ça venait dans des belles boîtes, c'était bien emballé, c'était redoré, tu avais de la documentation. Tu sais, c'était vraiment comme quelque chose. Aujourd'hui, je trouve ça un peu tout nu. Tu sais, le dernier jeu vidéo que je me suis acheté, je l'ai téléchargé. Je pense pas que, tu sais, j'ai pas de boîte, j'ai rien. Là. La seule chose qui fait que je l'ai, c'est que j'ai une icône dans mon ordinateur, c'est tout.
Avant, on t'a donné un code, puis ça a fini ça. Là. Il n'y a pas d'expérience boîte, avec un expert non plus en magasin. Tout se passe de manière virtuelle.
Écoute, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais pas vraiment de jouer à des jeux vidéo la semaine, fait que je me concentre sur mes études, puis regarde ce que ça donnait. Merci, maman.
Ben oui, avoir su, hein. T'aurais commencé à jouer bien plus jeune.
Puis je me rappelle, ce qui m'excitait le plus, vu que la semaine, je pouvais pas jouer, c'était de lire les manuels des jeux. Parce que pour moi, c'était une manière de rester dans l'ambiance.
Okay, on va couper ça au montage. Non!
Toi, Gégé, t'as combien de brochures environ, selon toi, là?
Ben écoute, je les ai pas comptabilisées une par une, mais ça doit être pas loin de 2000 brochures différentes, hein, c'est bien important. Parce que il y a aussi des doubles. Ça, quand on commence à les ramasser et qu'on n'a pas un inventaire bien détaillé, ben la mémoire fait défaut et il arrive qu'on achète deux fois la même brochure. Mais je te dirais entre 1000 et 2000 brochures différentes. C'est assez vague.
Méchant gros écart.
Oui, on est d'accord. Mais oui, tu sais, j'ai des brochures là de Thunderbird du début des années 80 ou de Taurus, tu sais, des modèles peut-être un peu moins, des brochures de modèles qui ne font peut-être pas vivre une excitation énorme en ce qui me concerne, mais j'ai quand même mes préférés chez moi. Je te donne au passage, là, j'ai quelques brochures de Lada, donc à l'époque où on pouvait s'acheter une Samara, par exemple, une Signia familiale ou même un Iva 4x4, et je trouve ça intéressant d'aller lire les infos sur la garantie qui était offerte à cette époque-là, même sur les options et comment on présentait le véhicule, parce que en faisant abstraction de tout l'aura négatif sur la marque Lada, si tu fais juste lire la brochure, là, t'as l'impression que c'est un très bon véhicule, là. Un véhicule durable, un véhicule robuste, un véhicule qui va durer longtemps, mais la réalité est bien différente. Sinon, je suis bien content aussi d'avoir, c'est différent un peu d'une brochure, mais je suis content d'avoir un ensemble de presse, là, en bon français, un kit de presse de la pléthore, donc la voiture québécoise là qui tentait d'être un supercar à grand succès. Malheureusement,
mais qui n'a jamais rien été, ouais.
Elle n'a jamais rien été, mais j'avais réussi à obtenir ça au salon de l'auto. Et tu sais, j'ai un faible pour les Volkswagen du millénaire précédent. Un copain m'a vendu des brochures de Volkswagen des années 50, des brochures canadiennes en français, de la Beetle, de la Karmann Ghia et même du Volkswagen, le microbus qui date du début des années 60. Tout ça en français. Franchement, c'est des belles pièces que je suis fier d'avoir dans ma collection.
Non, honnêtement, si tu as des brochures de modèles que tu aimes, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Là. Moi-même, un jour, si je devais avoir une collection de genre, tu sais, ça vaut pas la peine d'essayer de tout avoir, là, parce qu'il doit y avoir des milliers de modèles différents à collectionner, mais j'essaierai au moins d'avoir les marques et les modèles qui me parlent le plus. Là.
Ben, parlant des milliers, ben, on peut peut-être glisser un mot sur notre collègue Antoine Joubert, qui lui en a pas moins de 10 000 et il produit des capsules fort intéressantes sur les brochures et il présente finalement dans ces capsules-là des brochures de sa collection personnelle. Et si vous aimez un peu l'histoire de l'automobile, ben, c'est un incontournable et tout ça est diffusé, évidemment, sur le site du Guide de l'Auto.
Oui, ça s'appelle les 10 000 et une brochures d'Antoine, pour ceux qui sont curieux. Tu sais, Germain, j'ai acquis, depuis que je fais ces petits podcasts, la réputation un peu d'être le futuriste, le gars qui donne son opinion aux 80 sur ce qui nous attend. Et ce qui est bien quand on prédit le futur, c'est que tant en son temps que c'est pas arrivé, on peut pas me dire que j'ai raison ou tort. Et quand ça risque de ne pas arriver, ben, en fait, je me comprends, là, ben, tout ça pour dire que la brochure, moi, je vois un avenir intéressant pour la brochure. Pas nécessairement pour la voiture de tous les jours. Puis, tu sais, on se dit souvent, si un jour les voitures autonomes existent, puis ça, on en reparlera, mais j'ai vraiment des doutes là-dessus, là. Mais si un jour elles existent, peut-être même qu'il n'y aurait plus de voitures à possession individuelle. Cela dit, je suis convaincu qu'il y aura toujours des voitures sport, des voitures d'exception. Et ces voitures-là, ça va toujours être approprié qu'elles aient des brochures. Pourquoi? Parce que moi, si je viens de dépenser, je sais pas moi, 200, 300, 400 000 sur une voiture, j'ai intérêt à revenir à la maison avec un méchant beau livre qui m'explique comment la voiture a été conçue, comment elle est construite, c'est quoi son histoire, c'est quoi l'étude stylistique derrière les modèles. Tu sais, un objet que je peux montrer aux gens là, sans nécessairement devoir leur montrer la voiture. Donc, c'est sûr que je vois un avenir pour les voitures d'exception. Les voitures communes, je pense qu'on va continuer d'avoir des brochures en PDF. Pourquoi? Ben parce que, comme je te dis, un PDF, ça vit par lui-même. Ça peut vivre même sans connexion Internet si tu le télécharges. Mais les brochures papier, je pense vraiment pas qu'on va en voir en masse dans les concessionnaires ou même dans les salons. Là.
Le sage Marc-André a parlé. Malgré la distance qui nous sépare, c'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer, à l'animation.
C'était Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique.
C'était une production Cube Radio.